Bonjour à chacun. Nous allons continuer de suivre les exploits de Jonas. Le mot exploit il peut être pris de bien des sens. Hein. C'est vrai que les exploits de Jonas, voilà, il fait ce qu'il peut. Comme nous souvent, hein. Comme nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu la dernière fois, une des choses qu'on avait dit, c'est que le livre de Jonas peut être pris comme un espèce de livre d'enseignement pour les apprentis prophètes. Et c'est un petit peu dans cet esprit qu'on va continuer notre réflexion. On avait vu que Jonas n'avait pas totalement tout faux non plus la dernière fois. Il avait, sur quatre ordres de Dieu, il en avait accompli deux quand même, ce qui est quand même déjà pas mal. Il a fait du 50%, il avait la moyenne, mais voilà. Et la question qu'on peut se poser, qu'on peut continuer de se poser, c'est où est-ce qu'on en est, nous, dans notre obéissance à Dieu? Est-ce qu'on en est à 2 sur 4, à 3 sur 4, à 5 sur 4? Ça, c'est les plus que vainqueurs, vous savez, dont nous parle l'apôtre Paul, ceux qui sont à 5 sur 4. Ma femme vous a lu le passage de la tempête. Et j'aimerais continuer de lire un petit peu dans le texte, en continuant au chapitre 2, les 11 premiers versets, enfin les 11 versets du chapitre. Donc Jonas vient d'être balancé dans la flotte, hein, voilà. Je ne sais pas s'il nage encore ou s'il coule direct à pic, ça le texte ne nous le dit pas. Mais le texte nous dit ceci: « Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas. » Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Des entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu, il dit « Dans l'angoisse qui m'étreint, j'implore le Seigneur, il me répond. Du ventre de la mort, j'appelle au secours, tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans le gouffre au cœur des mers, où le courant m'encercle, toutes tes vagues et tes lames déferlent sur moi. Si bien que je me dis « Je suis chassé de devant tes yeux. Mais pourtant, je continue à regarder vers ton temple saint. Les eaux m'arrivent à la gorge, tandis que les flots de l'abîme m'encerclent. Les algues sont entrelacées autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'à la matrice des montagnes. À jamais, les verrous du pays de la mort sont tirés sur moi. Mais de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô Seigneur mon Dieu. Alors que je suis à bout de souffle, je me souviens et je dis « Seigneur ». Et ma prière parvient jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Les fanatiques des vaines idoles qu'ils renoncent à leur dévotion. Pour moi, au champ d'action de grâce, je veux t'offrir des sacrifices et accomplir les vœux que je fais. Au Seigneur appartient le salut. Alors le Seigneur commanda au poisson et aussitôt, le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Voilà, cette histoire bien connue, hein, de Jonas dans le poisson. On ne s'arrêtera pas trop sur cette histoire de poisson, de pas poisson, grand poisson, baleine, etc. Vous en savez certainement plus que moi sur le sujet. Et je ne pense pas que ce soit là la chose la plus importante et la plus fondamentale que ce texte veut nous dire. Il me semble qu'il y a une question qui doit nous interpeller très fortement à la lecture à la fois de ce que mon épouse a lu et de ce que je vous ai lu maintenant, c'est: est-ce que nous sommes condamnés à l'obéissance? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie? La Bible est très binaire dans ses récits. Elle a rarement une troisième voie. Hein. C'est soit oui, soit non. Soit j'obéis, soit je désobéis. Soit je suis pour, soit je suis contre. Jésus parle des tièdes et il dit que ça, c'est épouvantable. C'est ceux qui sont au milieu. Et malheureusement, je crois qu'une grande partie, c'est un peu un jugement que je donne, mais je crois que c'est vrai dans le monde occidental, une grande partie de nous chrétiens, nous sommes des tièdes. Nous sommes ni pour ni contre, bien au contraire, ça c'est les vaudois, hein, On n'est ni pour ni contre, bien au contraire. Voilà, on ne sait pas très bien où on se situe. Sommes-nous condamnés à l'obéissance ? Je me rappelle, dans ma jeunesse, il y avait pas mal de messages qui, du haut de la chair sur l'importance de la vocation. Et souvent, les prédicateurs avaient tendance à dire que, voilà, si on n'obéissait pas, si on n'entrait pas dans la vocation que Dieu voulait pour nous, eh bien, on n'aurait qu'une vie médiocre, qu'une vie de malheur. Et c'était une énorme pression, je veux dire, quand vous avez 16, 17, 18, 20 ans, et que vous êtes là au moment des choix, hein, des choix professionnels, des choix, tous ces choix de « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Bon sang, si je me gourre, je rate ma vie, quoi. Hein, je rate ma vie. Et il y avait vraiment cette pression qui était là, le chemin qui mène au bonheur et le chemin qui mène au malheur. Et je dois dire que j'ai un peu répondu à ma vocation sous cette pression-là, en me disant, si j'entre dans la vocation, au moins je suis sûr que je suis sur un bon chemin, quoi, même si je n'ai pas trop envie. Et je ne savais pas très bien ce que Dieu voulait de moi. Je ne savais pas très bien ce que Dieu voulait de moi. Mais quelque part, je croyais que Dieu voulait que je le serve. Aujourd'hui, j'ai une position assez différente. Je crois que Dieu nous laisse absolument libres de nos choix. Nous pouvons lui dire oui et nous pouvons lui dire non. Dans notre oui, nous pouvons choisir de le suivre pas à pas, dans une dimension et dans une dynamique d'obéissance, de recherche de sa volonté. Ou alors nous pouvons nous contenter de regarder de loin, de voir les choses qui se passent, d'écouter les témoignages, etc., et d'être un chrétien lambda, ni pour ni contre, bien au contraire. Et Dieu ne va pas nous punir pour cela. Dieu ne va pas faire tomber le feu du ciel sur nous pour ça. Mais Dieu va être un peu triste parce qu'il sait que nous nous privons d'une chose extraordinaire, celle de marcher avec lui, celle de ce quotidien avec lui, celle de ce cœur à cœur, celle de cette dimension « il est mon Père ». Je suis son enfant. Cette dimension du dialogue constant, fréquent avec lui. Cette dimension de le voir agir au travers de nous. Et ça, c'est incroyable, de voir Dieu agir au travers de nous. Dieu a envie de cela pour nous. Souvenez-vous la parabole du fils aîné, du fils prodigue, hein, vous rappelez, hein. Ces deux frangins. Il y a celui qui reste à la maison, qui fait le job sans beaucoup d'enthousiasme, mais il fait le job. Mais il ne vit pas la joie de la proximité. Il ne vit pas la joie d'être aimé et d'aimer. Il fait le job. Et souvent, nous sommes des chrétiens qui faisons le job. Voilà. C'est bien. Dieu ne va pas faire tomber le feu du ciel sur nous à cause de cela. Oui, les portes de l'éternité nous seront ouvertes parce que nous croyons en son salut. Mais nous nous privons d'une dimension exceptionnelle, celle de l'immense proximité avec son cœur de Père. Et cette proximité-là, nous ne la trouvons que dans l'obéissance. Nous ne la trouvons que dans la consécration. Consécration, c'est un terme qu'on n'emploie plus beaucoup à l'Église aujourd'hui, le terme consécration. Se consacrer à Dieu, lui consacrer notre temps, nos journées, notre vie, nos talents, nos défauts, notre caractère, tout ce que nous sommes, se consacrer à Dieu. Alors si nous nous consacrons à Dieu, nous nous mettons en marche vers Ninive. Mais c'est loin Ninive. Et j'ai été frappé pendant cette semaine par cette dimension-là que je n'avais jamais véritablement réalisée. Quand Jonas, et ça ce sera un peu la prochaine fois, mais quand Jonas va se mettre en route pour Ninive, il ne sait pas trop ce qu'il attend là-bas, mais il sait qu'il doit y aller. Et j'aimerais vous dire ce matin que quand on se consacre à Dieu, on ne sait pas forcément exactement où ça va nous mener. Souvent j'entends des gens qui disent « Ouais, moi j'aimerais bien servir Dieu, mais j'ai pas de talent particulier et je ne sais pas ce que Dieu veut de moi. » Eh bien, ce n'est pas en restant assis sur le banc de l'église qu'on saura ça. Hein. Pour ça, il faut se mettre en marche. Il faut partir vers Ninive. Mais partir vers Ninive, c'est à des centaines, c'est à quelques milliers de kilomètres. Je n'ai pas fait le calcul, mais c'est super loin. Et c'est en grande partie à pied. Donc, ça a pris du temps. Et il a eu le temps de réfléchir. Il a eu le temps d'être dans ce cœur à cœur avec Dieu. Il a eu le temps de se laisser former par Dieu. Vous savez, des fois, la vocation, c'est toute une vie pour arriver à ce point où Dieu veut qu'on soit, où on prononcera la parole, où on aura le geste que Dieu attend de nous et qui changera toute chose. On ne sait pas ce que Dieu attend de nous. Des fois, on imagine que voilà, la vocation, c'est être devant la chair ici et puis de prêcher, etc. Mais non, la vocation, c'est être en cœur à cœur avec Dieu. C'est être consacré à lui, c'est marcher à ses côtés. Jésus dit ça d'une façon encore plus intime, c'est être sous le joug avec lui, sous le joug avec Jésus. Marcher à ses côtés. Moi, j'ai été élevé à la campagne et on avait des chevaux. Et on travaille encore beaucoup avec les chevaux. Et j'aimais voir ces chevaux attelés ensemble, vous savez, qui tiraient ensemble la charrue. Et puis on a eu un poulain, Bruno qui s'appelait. Et j'espère qu'il n'y a pas des Bruno. Bruno, sa maman c'était la Jeannette. Et puis l'autre cheval c'était Iris. Voilà, vous savez tout sur les chevaux de mon enfance. Et bien quand Bruno est arrivé à l'âge où il pouvait commencer à travailler, on l'a attelé à côté de la Jeannette, à côté de sa maman, mais il ne savait pas ce qu'il devait faire. Hein? Alors on réglait les palonniers, vous savez, ça c'est tout un art, et on réglait les palonniers, et en fait c'est surtout la Jeannette qui tirait, et puis Bruno, il croyait qu'il faisait une promenade, hein? Et puis il se promenait à côté de sa maman, puis de temps en temps il voulait aller, mais non, sa maman, voilà, il fallait suivre, il ne pouvait pas aller ailleurs, il fallait suivre. Et au fil des mois, on a augmenté la charge sur le palonnier, et parce qu'il était le plus jeune, le plus fort, finalement c'est lui qui a commencé à faire vraiment le travail. Ça c'est la route vers Ninive, c'est ce chemin de proximité avec Dieu, c'est ce temps où on est là, où on est dans cette proximité extraordinaire avec le Seigneur, jour après jour. Des fois c'est très fort, puis des fois on ne s'en rend même pas compte, parce que c'est juste la vie, et puis qu'on est de mauvaise humeur. Mais même quand on est de mauvaise humeur, Jésus est avec nous, à côté de nous, vous savez. On a le droit. Et ça, Jonas ne le savait pas. Jonas, il pensait que du moment qu'il partait à Tarsis, Ils étaient mis sous la malédiction de Dieu. Et ça, ça se manifeste par cette immense tempête. Et je crois que cette tempête, on peut la voir sous deux aspects. C'est cette incroyable culpabilité qui naît dans le cœur de Jonas. Et vous savez, la culpabilité, c'est une tempête destructrice. Et c'est une tempête que Satan utilise pour briser notre foi. Tu as fait tout faux, tu n'es pas fidèle, tu as rompu tes engagements. Et la liste, hein, Satan, il est hyper créatif. Il s'est tout inventé pour nous culpabiliser. Et quand on est coupable, alors il y a cette tempête en nous. Et la communion avec Dieu devient difficile, voire impossible. Et puis, il y a l'autre aspect. Il y a cet aspect de penser que cette tempête, elle vient vraiment de Dieu. Et je crois que de temps en temps, Dieu envoie des tempêtes dans nos vies pour nous secouer un peu, pour nous dire « Oh, 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 hein ? C'est pas comme ça qu'on fait. T'as bien réfléchi ? Qu'est-ce que tu fagotes ?» On a besoin des fois de ça. On a besoin de ça. Ça ne veut pas dire que Dieu est méchant. Ça ne veut pas dire que Dieu est en colère contre nous. Au contraire, pensez, vous qui êtes parents, aujourd'hui on n'a plus le droit de le faire, mais de temps en temps, pas besoin de taper fort, hein. Une petite caresse bien appuyée, c'est un peu les tempêtes du Seigneur. On n'a pas le droit de dire ça aujourd'hui, hein. Vous avez le droit de me mettre en prison. Mais voyez ce que je veux dire, hein. Je ne parle pas de violence du tout, mais d'autorité. D'autorité. Et Dieu fait acte d'autorité dans nos vies. Et il a raison de le faire. Et alors Jonas, qui n'y comprend rien, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il saute par-dessus bord. Mais comme il n'a pas le courage, il demande aux autres de le balancer par-dessus bord. Il aurait pu simplement prier dans le bateau et la tempête se serait calmée. Il aurait pu dire à Dieu, purée, je me suis trompé. Et la tempête se serait calmée. J'en suis sûr. Mais non, il a sauté par-dessus bord. Et il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Alors, le ventre du poisson. Avant qu'on en parle, j'aimerais juste faire encore une petite parenthèse qui me paraît très importante. Vous savez, le judaïsme, quand il parle de Jonas, il parle de l'homme qui descend. L'homme qui descend. Parce que, effectivement, dans tout ce premier chapitre et le début du deuxième chapitre, on voit un homme qui descend à Jaffa, qui descend au fond du bateau, qui descend dans le sommeil, ensuite qui descend au fond de la mer et qui descend encore au fond du poisson. Et là, il ne peut pas aller plus bas. Mais il s'est surtout descendu au fond du sommeil. C'est impressionnant ce sommeil de Jonas, ce sommeil de cet homme. Et on verra dans deux semaines que Jonas était un grand sommeilleur, parce qu'il roupille encore plus tard. Ce sommeil. On voit une autre personne qui dort dans un bateau. C'est Jésus, hein ? Juste aussi pendant la tempête. Mais ce n'est pas le même sommeil, hein ? Le sommeil de Jésus, c'est un sommeil paisible, c'est un sommeil confiant, c'est un sommeil réparateur. Le sommeil de Jonas, c'est un sommeil dépressif, c'est un sommeil triste, c'est un sommeil lourd, c'est un sommeil coupable. J'ai parfois l'impression que l'Église est dans le sommeil, parce qu'on ne sait plus où on est, parce qu'on ne sait plus où aller, parce qu'on ne sait plus que faire, alors on dort, en se disant que demain, ça ira mieux. Le sommeil de la dépression. On y reviendra aussi dans 2 semaines, mais réfléchissons à cela. Réfléchissons au nombre de serviteurs de Dieu qui sont en burn-out, qui sont dépressifs. Réfléchissons au sommeil qui frappe nos églises. Par manque de vision, peut-être, par manque de résultats. C'est vrai que vous avez une belle église, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'une belle église si la puissance de l'Esprit ne s'y manifeste pas pleinement? Voyez ce que je veux dire? Si la vie n'est pas là, ça ne sert à rien. Combien d'églises sont transformées en de magnifiques appartements? Regardez sur YouTube, vous tapez « église transformée », vous verrez, ils font des choses fantastiques. On pourrait faire un truc super ici, un loft. Je veux dire... Dans le ventre du poisson. Là aussi, on pourrait dire, purée, Dieu, quand même, t'exagères. T'aurais pu envoyer, je ne sais pas moi, une chaloupe, un poisson, 3 jours, 3 nuits, à l'intérieur d'un poisson. Vous avez vu, vous avez écouté la prière que j'ai lue? C'est une prière d'un gars complètement terrorisé, épouvantable, qui hein? Pas du tout. Hein? Pas du tout. C'est la prière d'un homme qui est capable de renouer sa relation avec Dieu. Et c'est la prière d'un homme qui discerne l'espérance. Qui discerne l'espérance. Ça nous arrive, ça peut nous arriver à tous d'être dans le ventre du poisson. Il n'y a pas longtemps, l'automne dernier, j'ai été pendant 6 semaines dans le ventre du poisson. On est parti en Irlande avec ma femme pour un assez long séjour. Et le but pour moi était d'écrire un roman. Et on est revenu avec 3 manuscrits. C'est toujours bien quand on part pour un puis qu'on revient avec 3. Un livre de prière en ce qui me concerne, un roman, et Daniel avait écrit comment est-ce qu'on dit Daniel ? Un livret, voilà, merci, je cherchais le mot. Un livret pour des méditations pour l'Avent. Et en partant, juste avant de partir, j'avais des problèmes avec l'oreille droite. Elle était bouchée, elle me faisait mal, etc. Et puis, pendant ce séjour en Irlande, j'ai commencé d'avoir des migraines assez violentes. Et en rentrant, j'avais un rendez-vous chez mon ophtalmo. Et puis, elle a fait des contrôles de routine, voilà, tout va bien, etc. Et comme elle fait chaque fois, parce que j'ai eu une opération de la cornée, elle a fait un scanner pour voir l'état de ma cornée. Et puis, d'habitude, elle me montre les images, etc. Elle commente tout ça. Et là, elle a tourné son écran de façon à ce que je ne vois pas, et je sentais qu'elle était mal à l'aise. Et pour finir, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle a repris ça, et elle a tourné l'écran vers moi, et elle m'a dit, j'ai un problème avec votre œil droit. Si vous regardez le nerf optique à gauche est en parfait état, bien lumineux et tout, et à droite, il est presque éteint. Donc il y a quelque chose qui ne joue pas. Et je lui ai dit, mais ça vient de quoi? Et là, elle m'a dit, après pas mal d'hésitation, elle m'a dit, ben, il y a quelque chose qui presse sur votre nerf optique, je ne vois pas d'autre solution. Et je lui ai dit, mais ça peut être quoi? Elle m'a dit, ben, ça ne peut être probablement qu'une tumeur. Mais on va voir. On va continuer les examens. Quelques jours plus tard, j'avais rendez-vous chez ma médecin, et puis je lui dis que j'ai ce problème d'oreille et que j'aimerais juste qu'elle me la débouche. Et je lui parle de ses problèmes de migraine et elle regarde mon oreille. Elle me dit, elle va bien, votre oreille n'a pas du tout bouché, il n'y a rien du tout. Et là, en observant plus, elle me dit, mais il y a quelque chose au niveau du tympan, derrière, il doit y avoir quelque chose qui presse derrière. Et je lui dis, mais ça peut être quoi? Et elle me dit, je vois qu'une tumeur. Donc, deux médecins, deux avis identiques, vous avez probablement une tumeur au cerveau. On va faire des examens, on va faire un IRM, on va faire tout ça. Une de mes sœurs est morte d'une tumeur au cerveau, donc je sais à peu près, même très précisément, ce que ça veut dire d'avoir une tumeur au cerveau. Et je sais que les délais peuvent être longs et qu'ils peuvent être aussi très brefs. On peut vivre, la mort peut survenir après quelques semaines seulement. Donc on commence avec Daniel à réfléchir très sérieusement à la suite, hein. Comment organiser sa vie à elle. Plein de choses à faire. Et en même temps, je reçois cette parole d'Apocalypse 4:1. Après cela, je vis, une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue me parler, telle une trompette, qui disait, « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Et pendant 6 semaines, c'est-à-dire pendant le première annonce d'une possible tumeur jusqu'au résultat de l'IRM, pendant 6 semaines, j'ai vraiment vu cette porte du ciel ouverte. Et cette porte toujours plus ouverte, et cette communion avec Dieu toujours plus forte, toujours plus intense, cette proximité de l'amour de Dieu que j'avais probablement jamais ressenti avec une telle intensité, une telle force qui inondait véritablement toute ma vie. 6 semaines incroyables, à la fois d'angoisse, parce qu'on est humain, hein, mais à la fois pleine de joie et d'espérance. Et puis le verdict est tombé, il n'y a pas de tumeur. Alors on ne sait toujours pas ce qui se passe dans ma tête, je suis juste un type totalement bizarre, mais ça on le savait depuis très longtemps. Et quand on m'a appris ça, eh bien, j'étais très mitigé, parce que la porte se refermait, voilà, et la vie continuait, et le ministère continuait. Mais probablement que j'avais besoin dans ma vie, que mon âme avait besoin de cette proximité si forte, de cette redécouverte, de cet amour immense, de ce premier amour, hein, dont parle l'Apocalypse, ce premier amour tellement fort, premier amour. On a suivi pendant assez longtemps un couple sud-américain et la dame, une petite sud-américaine magnifique comme ça, elle parlait de l'amour sauvage, redécouvrir cela. Et c'est ce que Jonas a redécouvert dans son poisson. Il a compris que Dieu l'aime. Il a compris que Dieu est amour, que Dieu n'est pas ce Dieu qui punit, que Dieu n'est pas ce Dieu qui nous tient et qui nous oblige, vous savez, à aller là où il veut. J'avais un prof de dessin quand on n'était pas sage, il nous prenait par la joue, là, vous savez, et il nous faisait faire le tour de la classe, tour, accroché par... Ça fait super mal, hein, au bout d'un moment. Ça fait... Et on était obligé de suivre, hein. Il n'y a pas de choix. Dieu n'est pas un prof de dessin. Un peu bizarre. Dieu n'est pas comme cela. Dieu est amour. Et s'il nous veut à son service, s'il nous veut prophète, c'est parce qu'il nous aime. Et c'est parce qu'il sait que dans cette proximité que nous vivrons avec lui, nous serons tellement épanouis, nous serons tellement heureux, nous serons tellement complets, tellement nous-mêmes, qu'il n'y a pas de plus beau projet de vie que celui-là. Mais le chemin vers Ninive est encore long. Et nous verrons dimanche prochain, non pas dimanche prochain, mais dans 2 semaines, je crois, un peu la suite. Mais rappelons-nous cela. Le point de départ de toute vocation, ce n'est pas seulement l'obéissance, c'est la découverte de l'amour. C'est la découverte de l'amour. Parce que j'aime, je suis capable de faire n'importe quoi. Parce que j'aime, j'ai envie de suivre. J'ai envie de servir. J'ai envie d'écouter. J'ai envie de prier. J'ai envie de louer. Parce que j'aime. J'ai vu une très belle vidéo, et je terminerai avec ça, sur WhatsApp hier en fin de journée. C'est l'histoire d'un monsieur, un père, qui fait des grandes jardinières pour sa femme, et puis voilà, il faut les remplir de terre. Alors il a plein en gros tas de terre, là, et il appelle son gamin, adolescent, et il lui dit, viens m'aider à mettre la terre dans les jardinières. Et le gamin répond, je ne peux pas, je suis occupé. Et le père lui dit, t'es pas occupé, t'es couché sur le canapé. Alors bon, vous voyez l'ambiance, le gamin suit, prend une pelle, il fait la gueule, il est là. Et au bout d'un moment, il dit, mais pourquoi on doit faire ça? Et le père pose sa pelle et dit, c'est une bonne question. Parce que moi, je n'aime pas le jardinage. Ça me casse les pieds. Mais ta mère aime jardiner. Et parce qu'elle aime jardiner, je lui ai construit ses jardinières. Et maintenant, je mets de la terre dedans pour qu'elle puisse jardiner. Je ne fais pas ça parce que j'aime le faire. Je fais ça parce que j'aime ta maman. Alors, tu peux faire ça comme une corvée ou tu peux voir ça comme un geste d'amour pour ta maman. Le gamin, il a continué de voyez. Et puis, le lendemain, quand le père est rentré du travail, il a vu que le fiston n'était pas couché sur le canapé, et il a dit à sa femme, il lui a dit, il est où? Elle lui a dit, il est en train de mettre la terre dans les jardinières. Et le père, il était tout étonné. Et elle lui a dit, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je vais aller mettre la terre dans les jardinières parce que je t'aime, maman. C'est ça, la vocation. C'est pas que j'ai envie. Moi, je suis un solitaire, vous savez? Moi, je suis bien tranquille. J'ai pas besoin d'être avec des gens. Je n'ai pas besoin des gens. Je me suffis à moi-même. Je n'ai pas envie d'être... J'ai jamais eu l'idée de venir parler devant des gens. Je suis un peu comme toi, parler en public. C'est pour ça que j'ai appris à parler sans notes, parce que je ne pouvais pas tenir. Mais je n'arrivais plus à les lire. Donc, je n'étais pas fait pour ça. Je n'étais pas fait pour ça, du tout. Mais si je l'ai fait, Si je le fais, c'est parce que j'aime Dieu et que je sais que ça lui fait plaisir. Voyez ce qu'est la vocation. Amen. Amen.